c'est parti. Bonjour Hugo, déjà. T'es sur l'UTMB cette année ?
Comme d'hab.
Comme d'hab, c'est ce que j'allais te dire exactement.
C'est pas compliqué.
Et c'est quoi cette passion pour l'UTMB ?
En fait, l'UTMB, je le regardais avant de courir. Parce que des amis et mes parents faisaient la course. Il y en a qui la font depuis 2003. Enfin, qui l'ont fait en 2003, ils n'ont pas recommencé. Donc, j'ai toujours regardé le suivi chrono. Et je regardais les coureurs avant de me coucher, puis j'aimais bien la surprise le lendemain quand le classement en fait était complètement bouleversé. Parce que moi je faisais du vélo et en vélo, bon, on sait à peu près qui va être devant,
quoi,
à part des trucs d'échappée un peu bizarres. Mais... Du coup, j'ai toujours regardé, puis à un moment donné, par la force des choses, je me suis mis à courir. Mais c'était pas pour faire l'UTMB, c'était pour faire l'ultra du Beaufortin au début.
Ah oui.
Puis en fait, dès que tu commences à courir avec des gens, tout le monde parle de l'UTMB, donc j'ai dit ah oui, c'est vrai quand même, faudrait essayer ce truc là. Et j'ai été tout de suite conquis, donc vu que j'habite pas loin et tout, c'est vrai que le refaire chaque année, c'était assez facile.
Oui, parce qu'il y a, bon, à l'époque où c'était aussi un peu plus facile d'avoir un dossard.
Oui, jusqu'à 2021, il fallait juste avoir un index de performance suffisamment élevé et avoir fait un certain nombre de courses, ce qui n'était pas du tout un problème.
Oui, de toute façon, ouais. Il n'y a pas de problème. Mais sur le... du coup, tu l'as fait le Beaufortin en fait ?
Ouais, je l'ai fait en 2014. Alors, c'était mes débuts, donc j'étais mal entraîné. J'ai eu mal aux pieds, j'ai eu mal aux tendons.
Je trouve super dur le Beaufortin, moi.
Catastrophe. Il est dur.
Il est très très dur.
Il y a beaucoup d'abandon chaque année et c'est que les gens le sous-estiment en fait.
Oui, je crois. C'est-à-dire que moi, je fais partie de celles qui. C'était en gros, t'es pas pris à l'UTMB quand t'as eu le tirage au sort. Ah, c'est pas grave, on va aller faire le Beaufortin en mode.
Oui, c'est une très mauvaise idée.
Et c'est une très mauvaise idée en vrai.
En mode facile,
ça de toute façon. Quoi.
D'autant plus que chaque année, il a grossi un peu le truc là. Maintenant, il fait 115 bornes. Avant, il en faisait 105. Au début, il en faisait 90.
C'est au fur et à mesure.
C'est plus même, quoi.
Du coup, comme tu es là régulièrement sur l'UTMB, l'évolution, donc, parce que c'est le gros sujet polémique. En ce moment, l'évolution de la course, tu as un avis là-dessus ou
C'est sûr que la course, elle bouge chaque année, elle grossit, elle prend de l'ampleur parce que c'est le plus grand événement. Donc chaque année, il est obligé de mettre une carotte en plus, une surenchère pour rester le boss, quoi, entre guillemets.
Ouais.
Faut chaque année en mettre plein les yeux. Puis chaque année, il y a d'autres courses qui, elles aussi, développent des choses, les Templiers, les Golden... Donc ça les challenge en fait un peu entre eux, il y a un challenge entre les Golden Trail et les circuits by UTMB. Et moi je trouve que les deux se tirent vers le haut. Après c'est sûr, ça implique d'avoir tous les défauts de ce qu'est un grand événement. Quand il y a eu la Coupe du Monde de football l'an passé, elle était au Qatar. Ouais, on fouette les gens pour qu'ils construisent des stades. Et finalement, tout le monde a applaudi et a profité du spectacle une fois qu'on avait oublié ça.
J'ai envie de te dire que ici, on fouette personne pour monter les stands. Au moins, c'est déjà pas mal.
Et puis on les payait aussi, c'est bien ça.
Oui, ça c'est
un problème. Non, mais c'est sûr que à chaque fois, moi aussi, des fois ils prennent des décisions. Je me dis, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Maintenant, je suis pas dans le comité directeur. Je vois que ce que je peux voir. On voit pas la partie immergée de l'iceberg. Faut aussi savoir qu'ils sont plusieurs à prendre des décisions, ils les votent, ça veut dire qu'il y a des gens pour, il y a des gens contre. Donc il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, et puis il faut reconnaître quand même que je pense qu'ils sont pas loin de faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire essayer d'avoir les décisions les plus cohérentes, mais tout en accueillant beaucoup de public. Parce que c'est sûr que la solution la plus simple, on la connaît, c'est que demain on divise le nombre de dossards par deux. Sauf que là, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de gens mécontents que maintenant.
C'est de toute façon. Après, je crois que vraiment, le problème des Français, c'est qu'on ne mesure pas aujourd'hui l'impact de cet événement au niveau international.
Ouais, parce que nous, on l'a vu grandir chez nous.
Oui.
C'est un peu notre petit truc à nous.
Voilà,
certains ont participé à des éditions avec 700 participants, donc forcément, ils sont choqués aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Je crois que le problème,
c'est
il
normal.
Est là. Quoi. Tu le sens comment ? Alors du coup, parce que... Vendredi, donc en tous les cas, dans les analyses qu'on peut faire à froid, il y a une densité pour top 20, top 30, on veut dire.
Oui, bien sûr.
En tous les cas, si on part purement chiffré et tout, il y a rarement eu on a le sentiment qu'il y a rarement eu une telle densité.
Ah, attention, Cécile.
Non, mais.
Parce que j'ai regardé.
sur les. Potentiellement, un top 30, on va dire, tu as beaucoup plus de candidats, alors qu'il y avait des années où on avait des éditions où. Tu avais les premiers où ça allait se bagarrer très bien, mais T'avais presque un creux, un peu. Ouais. Et là,
il n'existe plus ce creux. Voilà, depuis l'an dernier.
Exactement, on est d'accord.
Ouais. Là, contre, par rapport à l'an dernier, c'est assez similaire parce que tu vois, moi, l'an passé, j'avais un index de 802, 803. Cette année, j'ai 810.
Oui.
Donc, on va dire que j'ai augmenté un petit peu. L'an passé, je suis parti avec le 103e index et cette année, je pars avec le 94e. Donc, c'est assez similaire. Tu vois.
D'accord. Ouais.
Par contre, c'est vrai que il n'y a pas les trois quadruples vainqueurs.
Oui, c'est ça.
C'est un peu la seule épine dans le pied. Mais sinon, j'ai envie de te dire qu'il manque que quoi. Il manque que Xavier, Kylian et François.
Oui, mais du coup, c'est un peu le souci qu'a cette course, c'est que on va avoir un vainqueur samedi.
Bah oui.
De toute façon.
Normalement. Ouais.
Normalement. Et il y aura toujours cette question du mais d'un autre côté, il n'y avait pas la vraie concurrence.
Oui, mais
et c'est ça qui est lamentable, je trouve.
Et toi, Cécile, voilà, qui a fait des ultras aussi, ouais, donc j'imagine que tu t'es sans doute préparée pour certaines de ces courses.
Mais bien sûr.
Et tu as vu que c'était dur, la préparation.
Non, bien sûr.
La préparation qui est dure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends le risque de te blesser avant le départ. Donc Kylian, qu'est-ce qu'il a? Il a une fracture de fatigue au sacrum,
ouais,
parce qu'il a eu une pratique déraisonnable en mois de mai-juin. Parce qu'il mettait le curseur au maximum. François, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une vilaine chute, il s'est fracturé je sais plus quel os dans la cheville. Bah, c'est très long à guérir. Bon, bah voilà, c'est parce que lui aussi, il met le curseur au maximum. Et finalement, quand il n'est pas en train de courir, il est en train de faire une autre activité. Xavier Thévenin, il chope la maladie de Lyme, alors il n'a pas eu beaucoup de chance.
Non, mais
c'est vrai qu'il la chope. C'était après les, je sais plus quelle grande, la grande traversée en Corse.
Oui.
C'était, il avait chopé le Covid. Il continue à se balader un peu dans la nature. Forcément, il se fait infecter, tu vois. Enfin, forcément non.
Mais ça a augmenté le potentiel.
Ils sont pas au départ parce que ils sont, eux aussi, en fait, malgré qu'ils soient forts tous les jours sur la corde raide à pousser le corps.
Mais c'est ça qu'on oublie, je trouve,
un peu
trop souvent.
C'est facile. On pense qu'il est bien là, il a claqué des mains,
c'est ça.
Il a fait un peu de piscine.
Et qu'en fait, la pratique de l'ultra, que ce soit à l'entraînement ou dans les courses, ça fait des immunodépressions, enfin ce qu'on dit en immunodéprimé dans les médecins, et ce qui fait que le moindre truc peut, quelquefois, une blessure qui pourrait presque chez un amateur passer, quand tu es, c'est ce qu'on dit, quand tu es une Ferrari, donc.
Typiquement, là en ce moment, si on regarde un peu les informations, alors oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de cas de Covid, tu vois, mais moi, ce que je me dis, c'est après UTMB, tiens, je vais peut-être faire un peu gaffe. Ce serait dommage, tu vois, de le choper à ce moment-là. Par contre, là, avant l'UTMB, tu vois, je suis en pleine bourre. Je vais dans des piscines publiques, dans des bains, tout ça. À aucun moment, je me dis, je vais choper le Covid parce que je suis en, tu vois, côté immunitaire, je suis à balle, quoi.
Mais ça, je suis assez d'accord avec toi par rapport à l'après-ultra, quand tu fais des trucs comme ça, les gens ne font vraiment pas attention. Et ne pense pas que
c'est souvent la réussite, la fête, on est content, on se lâche.
Non, mais tout à fait. Tu pars, du coup, on va revenir quand même à la marque, puisqu'on était là pour Altra.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ouais, quand même. Tu cours avec lesquels déjà?
Ah là, je peux pas te le dire. C'est,
d'accord, c'est un secret d'expérience.
C'est un modèle qui n'est pas sorti.
Ah non, d'accord.
Qui ne sortira peut-être pas, que j'ai eu le plaisir d'essayer en mars, parce que j'ai la chance de faire la taille échantillon chez les dames. Et en fait, moi, il faut savoir, j'ai la maladie de Lederhose, ce qui est absolument pas grave, mais de temps en temps, je peux faire des boules dans la paume des mains et la paume des pieds.
D'accord.
Et il se trouve que cette année, j'ai fait une boule, c'était la première de ma vie, donc je savais pas ce que c'était. Et la chaussure, la géométrie de la chaussure, celle-ci fait que je ne sens pas ma boule.
D'accord.
Donc j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un deuxième prototype et pouvoir courir l'UTMB avec.
D'accord.
Je ne sais pas si elle va sortir l'an prochain, mais je finirai la course avec les Olympus quoi qu'il arrive.
D'accord, ok. Donc c'est ce modèle-là qui te plaît.
Voilà.
Comment ça se passe d'ailleurs? On se pose toujours la question des athlètes. Les contacts avec les marques, c'est les marques qui te contactent? C'est toi qui vas vers les marques et parce que c'est une marque qui te plaît?
Altra, j'y étais allé parce que ça me plaisait. Ouais. J'avais essayé, je sais plus, par hasard. Je crois que j'avais vu la pub pour le Drop Zero, ça m'avait excité, j'avais essayé. Et j'avais trouvé ça génial, en fait ça devait correspondre à ma foulée parce que tout de suite j'ai vraiment pas été gêné du tout.
Ouais.
Et du coup après j'avais contacté Romuald Brun qui était qui travaille plus à la marque aujourd'hui.
Que je connais, qui est un très bon coureur.
Ah oui aussi, oui, tu connais. Et du coup après il avait commencé, donc il n'y avait pas de Team Altra en 2017, il m'avait envoyé je sais pas 4-5 paires. Et en 2018-2019, pareil, il n'y avait pas vraiment de Team Altra. Je crois que c'est vraiment arrivé, peut-être juste avant le Covid, où on a commencé à parler un peu de team. Pour Altra, en tout cas.
Oui, oui, tout à fait.
Et ça grossit un peu chaque année. Là, on le voit. Depuis 3 ans, ils sont très présents sur les TMB.
Oui.
2021, 2022, 2023.
C'est une marque qui est... parce que tout le monde ne le sait pas forcément, qui est basée à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. Enfin, le siège. Et ce qui était assez intéressant, c'est que moi, je suis allée courir dans le Colorado justement l'année dernière. Et au pied, j'avais sur la course, c'était ou Ultra ou Oka.
Ouais, les Américains sont beaucoup Ultra ou Oka.
Ouais, pas trop vraiment. Et les 10%, mais vraiment, ça se répartissait 40-40, hein, quasiment au pied, parce que j'ai pris le temps, comme c'était une course en 6 jours, j'ai bien regardé ce que les gens avaient au pied. Et le petit pourcentage qui restait se mélange. Enfin, voilà, c'était Salomon, un peu de T-Rex, mais vraiment de façon assez anecdotique quasiment. Et c'est vrai que je ne mesurais pas la puissance d'Ultra aux États-Unis en trail. Et pour toi, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la force de ces chaussures, à part le fait qu'elles sont confortables pour tes problèmes de pied?
Je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui ont les pieds un peu larges,
ouais,
mais qui n'ont jamais fait attention. Comme par exemple, on ne fait jamais d'exercice de pied, alors que c'est ce qu'on sert le plus en course à pied.
Ce qu'on devrait tous faire.
Et un jour, ils découvrent la marque, et là, si tu as le pied large, bah, c'est le coup de cœur, hein, c'est quasiment c'est évident. Parce que le drop zéro, moi, je ne sais pas trop si ça a eu un intérêt sur moi. Mais ce qui est sûr, c'est que la box large, j'ai plus d'ampoule au petit doigt de pied, ce que j'avais tout le temps avant. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce que moi, j'ai le pied vraiment... je serais un très bon vendeur ultra, hein. J'ai le pied carré, c'est facile.
Non, mais c'est vrai que c'est un type de chaussure qui est quand même assez particulier.
Il est particulier, hein, parce que si t'as le pied fin, tu peux pas les mettre. Hein. Enfin, c'est bizarre.
Bah, c'est-à-dire, moi, je les prenais sur mes ultras dans le désert et tout, parce que comme on a forcément le pied qui gonfle, alors déjà, moi, je cherchais pas forcément du dynamisme, parce que sur la dune, ça te le rend pas, de toute façon, on va les régler. Et comme t'as forcément le pied qui gonfle sur les longues distances, à un moment ou à un autre, là, l'avantage, c'est que ton pied s'étale bien. Et justement, tu as beaucoup moins d'ampoules aux orteils et tout grâce à ce truc hyper confortable. Donc, ça ne m'étonne pas du tout.
Et après, la gamme, elle a pas mal évolué. Ouais. Chaque année, les chaussures, elles sont de plus en plus performantes. Voilà, au début, par exemple, on avait du mesh qui tenait pas bien. Maintenant, ça reste relativement rare. Et les Vibram, au début, pareil, des fois, ça tenait pas bien. Ils ont modifié les formes, etc. Ils ont changé de colle. Donc, ouais, chaque année, le truc gagne en robustesse quand même, ça je le vois, hein, parce que j'utilise depuis 2017.
Oui, c'est ça, tu commences à avoir un peu de recul.
Ah, ça fait 2 ans que les chaussures sont quand même vraiment costauds et souvent j'arrête de les utiliser parce que vu qu'ils me donnent des paires neuves, au bout d'un moment ils préfèrent que j'ai plutôt des paires neuves au pied que des trucs.
Oui, c'est les plus récentes.
Je pourrais aller beaucoup plus loin avec. Là, même le proto que j'avais en début d'année, il a fait 600 bornes, je peux encore courir avec.
C'est
un proto, hein. Il n'est pas censé.
Voilà, exactement. C'est ce que j'allais te dire. C'est pas des modèles qui sont conçus pour ça, quoi.
Non.
Parce que je crois que c'est une des quand même. La durabilité est un sujet qui vraiment arrive maintenant sur le.
Ouais, de plus en plus. Parce que vu que les prix augmentent, les gens ils ont envie de les garder plus longtemps.
Bah,
quoi.
On est bien d'accord. C'est un peu ça le problème.
Ne serait-ce que la logistique de racheter une paire de chaussures. T'es là, t'es avec ta famille, tes enfants, t'arrives à caler tes entraînements à droite à gauche. Ben, si à un moment donné il faut faire un détour d'une heure pour aller dans un magasin, c'est une heure d'entraînement en moins, quoi. Donc quand tu comptes tout sur les doigts de la main, t'as pas envie d'y aller toutes les semaines.
Non, non, ça on est bien d'accord.
Le SAV, j'en parle même pas. Toujours un peu complexe.
Pour en revenir à l'UTMB, tu as une stratégie.
Ouais.
À fond.
Ouais, ouais.
Après j'accélère et après je donne tout.
En 2021, c'est la dernière année où j'ai fait un départ rapide. J'ai fêté ça par un départ très rapide. Et après, ça a été vraiment très dur tout le reste de la course. Donc, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, bon, ça, il ne faut plus jamais le faire.
Ouais, voilà.
Et en plus, j'ai été doublé pendant la course, et assez tardivement, hein, par des gens qui sont allés faire le top 10.
Ouais.
Donc, au kilomètre 100, en fait, je me faisais rattraper par des gens qui sont allés faire le top 10. Mmh. Courtenay, Mathieu Clément.
Mmh.
Et là, j'ai eu le tilt, quoi. Je me suis dit, putain, mais en fait, à quoi ça servait que je sois devant eux au début?
Si c'est pour finalement...
Finalement, je suis derrière à la fin. Oui. J'ai réfléchi, bon, trois années quand même avant. Hein.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, bah allez, l'an prochain, il faut se forcer à partir doucement. Donc je me suis pas embêté, j'ai pris les temps de Courtenay et j'ai suivi à la lettre près.
D'accord.
Malheureusement, j'étais pas trop en forme, donc après, j'ai dévié un peu et Courtenay avait mis 22h30 en 2021. Bon, j'ai mis 23h30, mais j'étais content quand même.
Ouais.
Du coup, cette année, je fais exactement pareil, sauf que j'arrive plus en forme. Donc ça devrait marcher, du coup.
C'est tout ce qu'on te souhaite.
Et c'est une stratégie où, normalement, oui, c'est sûr, quand tu passes Saint-Gervais avec tes 90e, si t'es pas préparé à ça, tu te dis, il y a un problème et t'accélères. Il faut être préparé à être loin, en fait.
Ouais. Et ça, c'est la matrice qui parle. C'est pareil. Moi, je sais que ma première fois à Saint-Gervais, quand je suis arrivée au ravito et que j'étais. Enfin, la barrière horaire était. C'était la première fois que je passais un ravitaillement avec une barrière horaire à moins d'une heure. pas que j'étais à 55 minutes, comme ça.
Ouais, et là, moi, elle ça est m'a... un peu dure à Saint-Gervais.
Beaucoup de gens ne l'ont pas en tête.
Il y en a deux, trois, je crois, au début, un peu dur.
Moi, je dis toujours que jusqu'à Courmayeur, tu serres les fesses. Quand tu es amateur dans l'univers. Ouais, jusqu'à Courmayeur, franchement, faut pas traîner. Et après, tu peux laisser rouler plus facilement. Mais franchement, Saint-Gervais, et psychologiquement, quand il, moi, mon premier UTMB, pardon, le premier où on m'a pas arrêté à Saint-Gervais, parce que la première fois, on m'a carrément arrêté à Saint-Gervais.
C'était... Ah, ils mettent la barrière.
Non,
la
mais là, c'était physique, une vraie barrière. Ouais. C'était la fameuse édition. Mais quand je suis revenue, et c'est vrai que psychologiquement, on est... c'est compliqué de se dire « Oula, c'est short, il faut que je me bouge et je vais jamais y arriver. » Et au fur et à mesure, t'avances. Mais c'est vrai que c'est pas... toujours simple, j'imagine, quand t'es élite, toi, 90 à Saint-Gervais, tu peux te poser des questions.
Moi, ouais, maintenant, fait, finalement... tu vois, j'ai fait le... Je l'avais testé sur la 30 Grand Canaria, je suis parti 50e, je regardais la montre, Clément Désil était resté avec moi, et je lui dis, t'inquiète pas, Clément, on, là, on est sur les temps du top 10.
Ouais.
On a fait 10 et 11.
Oui, donc... Non, mais c'est ça.
Mais les autres se foutaient de notre gueule à côté. Il y avait des Espagnols, ils m'avaient entendu, ils rigolaient. Ouais. Bon, on les a rattrapés.
Bah voilà.
Et du coup, je m'en suis convaincu comme ça, tu vois.
Ouais.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais par contre, là, tu prends, bah, tu parlais de la densité tout à l'heure à l'avant de la course.
Ouais.
Tu prends, bon, Thibaut Garivier, il a compris, il l'a fait l'an passé, mais tu prends un coureur qui a 870, 890 d'index. Il arrive là sur l'UTMB, il y en a 20 comme lui.
Ouais.
Il n'est pas prêt à ça, il ne l'a jamais vécu.
C'est ça, exactement.
Il va partir, s'il ne part pas un petit peu quand même à un rythme légèrement élevé, bah, il va être 30e. Mmh. Et lui, ça va le choquer.
Ouais. Ah, ça, c'est, c'est le problème d'une course.
D'habitude, c'est des gens, ils courent à deux ou trois.
Ouais, devant, quoi. Et là, t'as une belle densité jusqu'à. Assez loin, quand même. Donc, ça
je pense que. Ouais, l'an passé, c'est arrivé un peu au compte-goutte à Courmayeur, mais assez vite, quand même.
Bah, j'y étais, du coup, par la force des choses, puisque donc, moi, j'étais en avance pour faire l'assistance d'Alex et je les ai vus arriver. Et c'est toujours quelque chose de très, très intéressant. Tu as une assistance, de toute façon. Tu le prépares, ça, vraiment, enfin, est-ce que toi, tu prépares l'assistance en mode transition triathlon?
C'était ouais, ça. Exactement. Ouais. Ouais. Cette année, ouais. Justement, en fait, l'an dernier, c'était un ami qui m'avait ravitaillé. Parce que je ne voulais pas l'imposer à ma compagne. C'est quelque chose de délicat. Tu te fais un peu marcher dessus, il faut faire ta place, il y a des routes barrées, il faut peaufiner la circulation. Nous, on a opté pour une version un peu... Voilà, on n'embête personne dans notre coin, on fait ça tout seul, on a une voiture, on a des vélos électriques, on a des lits de camp pour dormir.
Ouais.
Voilà, mon pote, il a dormi sur un parking avec son lit de camp pour être en avance à Courmayeur. Donc c'est quelque chose de particulier, il me fallait un guerrier, là, un lieutenant. Et du coup, ça s'est assez bien basé. Et en le faisant ensemble, en fait, on a débriefé tous les deux après, parce qu'on est des amis, donc on a l'occasion d'une soirée. Et on s'est dit, ah putain, mais en fait, on pourrait faire ça, ça et ça, on gagnerait du temps et tout. Alors, ça va être une minute, hein, tu vois, à chaque fois, mais au total, ça en fait 6.
C'est ça, c'est exactement ça. Et 6, bah, ça peut faire une place au classement général.
Bah ouais, parce que ça te relance, du coup, tu repars après tel coureur, tu vois, parce que le mental, il va arriver aux alentours d'Arnouva, là. Bon, physiquement, on va rester linéaire, mais c'est le mental qui va prendre le relais.
Oui, tout à fait. Bon, bah écoute, tout ce que je te souhaite, c'est que tout se passe bien.
Ouais, entre 22h30 et 23h.
Voilà, bien. C'est parfait.
Il y a des petits modifs à la fin, on verra du coup ce que
c'est,
ça fait.
Oui, bah. Elle est. Bon, le dénivelé est le même. Moi, c'est une modif.
Je crois que c'est plus facile la fin quand même par rapport à tête au vent.
Bah, moi, spontané. Enfin, pour avoir fait les deux, mais en. Enfin, j'ai fait la tête au vent quand j'étais sur le TMB et je l'ai fait sur. Moi, je trouve ça un peu plus facile, mais à mon niveau, machin. Mais après, je n'en vois pas, si tu veux, comme moi, je suis en mode.
En deux temps déjà.
Ouais. Moi, et je. Bah, après, j'ai un souvenir, moi, de tête au vent le dimanche matin au lever du soleil, pas du tout. Voilà, j'ai une deuxième nuit dans les pattes, donc c'est vrai que c'est pas forcément un souvenir.
T'as les marches à monter.
C'était un souvenir assez compliqué, pour dire les choses. Et là, j'ai un sentiment que ça va quand même. Il y a un risque que ça envoie plus.
Par contre, avant Valorcine, tu perds du temps sur la grande piste.
Ouais.
Et à Trian, je pense que c'est qui tout double. Si t'es bien, tu montes plus vite parce que c'est plus direct.
Ouais.
Si t'es pas bien, c'est vraiment trop raide. Et
c'est trop raide. Non, ça va être intéressant parce que du coup. Mais après, c'est le problème d'un nouveau parcours et donc d'une estimation, d'un chrono final où on sait pas.
Ce que ça va donner. Arrive sur le nouveau parcours, on a fait 145 bornes, je vais te dire, on s'en fout.
Oui, tout à fait.
On réfléchit plus trop au chrono.
On avance, quoi.
C'est foutu.
Bon, bah c'est super. Bah merci beaucoup, Hugo. Et puis très bonne course.
Ouais, j'espère.